RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Afghanistan, qui reste l'un des pays les plus dangereux au monde. C'est ce que confirment les dernières conclusions d'un rapport de l'ONU sur les besoins humanitaires de la population. Les violences ont forcé l'an dernier un demi-million de personnes à fuir leur foyer et ils seront aussi nombreux au cours des 12 prochains mois, selon les Nations Unies. Ces déplacés internes, tels qu'on les nomme, sont plongés dans la misère et au dénuement s'ajoute la déscolarisation des enfants. Ils sont des milliers à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, près de la frontière avec le Pakistan. Enfants de déplacés, une génération perdue. Un grand reportage signé Sonia Ghezali.
Au cœur de Jalalabad, le lycée de garçons Aref et Shahid. 103 classes au total. 72 d'entre elles ont lieu dans des salles, une trentaine d'autres à l'extérieur dans la cour. Dans les couloirs, le chef de l'établissement fait sa ronde. Cela fait un an et demi que Wazir Ghul Kamyab est à la tête de l'établissement.
Depuis la rentrée en septembre, depuis que les réfugiés ont commencé à rentrer en Afghanistan, les classes sont particulièrement surchargées.
Avant septembre, il y avait combien d'élèves par classe ?
Avant, on avait des classes de 45 élèves, pas plus de 50 élèves par classe. Mais maintenant, c'est minimum 50. Dans certaines classes, il y a 80, 90 élèves. Non, on ne refuse aucun élève parce que l'autre établissement qui se trouve à côté enseigne le français. Ici, on enseigne l'anglais. Et on ne peut pas refuser des inscriptions. C'est un droit ici. Les enfants ont le droit d'étudier n'importe où.
Au premier étage, cours de physique pour des élèves de seconde. Les murs de ciment ne sont pas peints. Au fond de la pièce, de 20 mètres carrés, des fenêtres donnent sur la cour. Les vitres sont fines, il n'y a aucune isolation sonore. Pieds nus, assis en tailleur sur un large tapis usé au sol, une soixantaine d'élèves, leurs chaussures alignées les unes près des autres contre le mur. Abdelhak leur enseigne la physique et les conditions sont particulièrement difficiles.
Dans ces classes surchargées, je ne peux pas suivre chaque élève. Je ne peux pas corriger leurs devoirs chaque jour ou vérifier qu'ils ont chacun bien appris leur leçon. Alors je divise. Un jour, je corrige cette rangée-là, le jour d'après, je corrige celle d'à côté, le troisième jour, la rangée suivante, et ainsi de suite. Par exemple, aujourd'hui, j'ai interrogé Ali, Ahmad ou Mahmoud. Alors demain, eh bien, j'interrogerai trois autres personnes. Si on avait des classes standards, avec 30 élèves maximum, ça serait plus facile d'enseigner et d'avoir des résultats positifs.
Mais les classes ne cessent de gonfler depuis plusieurs mois. Une tendance qui ne risque pas de s'inverser étant donné la dégradation de la situation sécuritaire et le retour des réfugiés du Pakistan voisin.
Il y a beaucoup d'élèves qui sont ici, des élèves qui sont arrivés cette année parce que ce sont des enfants de réfugiés du Pakistan ou de déplacés internes.
Oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, certains sont dans cette classe. Ceux qui viennent de l'étranger et qui ont leurs papiers ont le droit de passer leurs examens. Et ceux qui n'ont pas leurs documents, s'ils les ont perdus ou s'ils n'ont pas eu le temps de les demander à l'administration, ils ne peuvent qu'assister aux cours.
Le directeur demande quels sont les élèves qui ont dû fuir leur maison. Les mains se lèvent une à une.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
15 élèves dans cette classe sont des enfants de déplacés. Parmi eux, Nouroula, 16 ans.
Cela fait 3 mois que je suis ici. Avant, j'étais à l'Arman. Mais il y avait la guerre avec les talibans, alors on a quitté le village avec ma famille. Pour mes parents et pour moi, c'est important que je continue l'école. C'est pour ça qu'on est venu ici, parce qu'il y a cet établissement, et je peux aussi suivre des cours privés au centre-ville.
Ihsan Oula lui est arrivé il y a un an, après avoir quitté son village en guerre dans le district voisin d'Issarak.
Dans mon district, il y a des talibans. Ce sont eux qui contrôlent mon village, et l'armée est loin.
Mes parents sont restés là-bas. Ils m'ont envoyé chez mon oncle ici pour que j'aie un bon futur. Après l'école, je travaille chez mon oncle à l'usine de briques. Je remplis des moules en terre pour l'aider. Donc quand je finis l'école vers 11h, je rentre déjeuner et ensuite je pars travailler avec lui jusqu'au soir.
Une usine de briques à ciel ouvert au bord d'une route de Jalalabad. Dans le ciel, une épaisse fumée s'échappe d'une haute cheminée de ciment gris. C'est le four dans lequel sont cuites les briques fabriquées par des centaines de petites mains. Je m'appelle Rosina. Je fabrique des briques avec mes trois frères. Cela fait longtemps que je travaille ici. On est parti de notre village à Chaparar pour venir travailler ici avec ma famille parce qu'il n'y avait pas de travail. Le matin, on vient très tôt. On a très froid. Nos mains brûlent tellement il fait froid. C'est dur. J'ai mal au bras après le travail. Mais il faut avoir du courage parce qu'il faut aider la famille. On gagne notre vie. Gagner sa vie à 7 ans n'a rien d'exceptionnel ici, explique Rosina. Sa peau brunie par le froid et le soleil, un léger foulard couleur bordeaux sur ses cheveux noirs. Ici, tous les enfants travaillent. Mais ceux qui ont une maison, ils ne sont pas obligés de travailler. Il y a des gens qui sont venus travailler ici parce que Daesh a attaqué leur village. Daesh, ce sont des gens qui font la guerre, qui égorgent les personnes, qui détruisent tout. Moi, j'ai peur quand je viens travailler ici. La dernière fois, il y a eu une explosion juste à côté, là. Dans mon village, il y avait aussi des coups de feu et des explosions. Rosina montre du doigt trois de ses amies qui ont fui leur village envahi par des hommes armés du groupe État islamique. Trois sœurs, âgées de 5 à 8 ans, apeurées, qui refusent de parler. C'est leur père, employé de l'usine, qui raconte.
Ils sont venus en groupe. Ils nous demandaient à manger et de l'eau. Si on ne leur donnait pas ce qu'ils voulaient, ils nous frappaient, même les femmes. On cachait aussi nos barbes blanches, nos anciens, parce qu'on avait peur qu'ils les tuent. C'est pour ça qu'on a fini par fuir.
Les barbes blanches sont les chefs de tribu, les hommes âgés dont la parole est respectée. Najiban explique n'avoir aucune nouvelle d'eux à ce jour. Il ne peut s'empêcher de penser à la cruauté de ces hommes de l'organisation État islamique et évoque les personnes qui se sont fait égorger sous ses yeux, ainsi que les enlèvements des femmes.
Je rêve de rentrer chez moi, d'avoir la paix. Et j'aimerais bien voir mes enfants avec des stylos, aller à l'école et ne pas être ici à travailler. Ça me rend triste de voir mes enfants travailler, les autres aussi. Mais on est obligé, on n'a pas le choix. Le matin, on commence très tôt. Il fait très froid et ils viennent avec nous. Ça me fait de la peine, oui.
Tous les enfants ici disent aller à l'école l'après-midi. À quelques mètres d'ici, au bout d'un chemin de terre sinueux, Albibi, une jeune femme de 30 ans et ses 4 enfants, elle raconte comment ils ont fui leur village de Pachiragam.
Nous avons tout laissé. Les hommes de l'État islamique ont tout détruit dans notre maison. Ils ont brûlé tous nos documents officiels, comme nos pièces d'identité. Je n'ai plus qu'un veau, c'est tout ce qu'il nous reste. Daesh tuait les enfants, les hommes, ils entraient dans les maisons. Nous avons réussi à nous échapper. Il faisait nuit noire. Je n'ai pas eu le temps de mettre ma burqa. On est allé chez un proche dans un autre village. Il nous a laissé nous installer dans une tente dans sa cour.
À À l'extérieur, assis sur un banc traditionnel, son mari Nour Hassan raconte à son tour.
Ils avaient le visage caché dans des foulards blancs ou noirs. Ils ne portaient pas d'uniforme, ils avaient des tenues traditionnelles afghanes. Ils portaient un drapeau noir.
Pachiragam, Achin, Côte, des noms de districts qui ont connu la violence et la cruauté de ces hommes qui se revendiquent de l'organisation État islamique. Des milliers de familles les ont fui et se retrouvent ici, à Jalalabad, plongés dans la misère. Javid habite en périphérie de la ville. Il faut prendre un rickshaw pour se rendre chez lui. Ces tricycles colorés et mécaniques qui font office de taxi local. Après quelques minutes de marche sur un chemin boueux, il soulève une couverture fixée à un portail et pénètre dans une petite cour, sur les murets sèches de vieilles couvertures. Il vit ici avec ses parents qui l'ont rejoint il y a 7 mois.
Il y a 2 ans, les hommes de l'État islamique sont arrivés. Ils n'étaient pas nombreux, ils prêchaient, ils montraient leur côté positif. Et les gens étaient intéressés par eux parce qu'ils avaient peur des talibans, alors ils étaient à leur côté. Leur groupe a commencé à grandir et après ils ont commencé à imposer leurs propres règles. Et leurs premières exigences étaient que les gens qui travaillaient pour le gouvernement quittent leur emploi. Ils les menaçaient et disaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient d'eux.
La mère de Javid a 70 ans. Ses yeux s'emplissent de larmes lorsqu'elle pense à son village.
Notre village à Côte est dans les montagnes. Il y a beaucoup d'arbres. L'herbe est très verte. C'est très beau. Les arbres sont magnifiques. Certains dégagent une délicieuse odeur sucrée. Il y a des arbres fruitiers, des raisins, des baies rouges.
Les petits frères et sœurs de Javid vont à l'école et pour cela, ils doivent faire 2 heures de marche aller-retour. Des enfants épuisés à la fin de la journée. Monsieur Shah est directeur de l'établissement Istiklal dans le centre-ville. Cela fait 30 ans qu'il est dans l'éducation.
Les enfants font des travaux vraiment très durs. Pour certains, ils sont avec des vendeurs ambulants qui sont dans la rue. Ils vendent des légumes, ils vendent des repas sur des étals qui sont installés sur les trottoirs.
Ils doivent
être très fatigués quand ils viennent à l'école, j'imagine.
Bien sûr, ils sont très fatigués. On a par exemple 2 élèves qui vendent de la soupe l'après-midi, après l'école. Il y en a beaucoup qui travaillent de cette manière. Et c'est ce qui explique le taux d'absentéisme vraiment très élevé.
...50% des élèves inscrits en primaire quittent l'école avant d'arriver au bac, selon le directeur. La misère est le principal facteur, une misère due au chômage qui a explosé ici depuis 2014, depuis le départ des troupes étrangères, une misère dans laquelle sont jetées aussi toutes les familles de réfugiés de retour au pays, mais aussi celles qui ont été chassées de leur village par les talibans ou l'organisation État islamique. C'est le cas de la famille de Nourzima, avec son mari et ses 4 enfants en bas âge. Ils ont fui en pleine nuit leur village attaqué par les hommes armés.
Maintenant, mon fils se réveille en pleine nuit, en criant et en pleurant, en disant « Daesh arrive, il tire, il tire ».
La famille loue une pièce de quelques mètres carrés et vit avec d'autres familles de déplacés. Dans la cour, les femmes préparent le repas sur un feu allumé avec des feuilles séchées, ramassées par leurs enfants dans la rue.
On n'a pas d'argent pour acheter du bois.
Mon fils pleurait ce matin. Il demandait à son père de lui acheter un manteau parce qu'il a froid. Mais on ne peut pas. Mais je suis contente que mes enfants aillent à l'école. Comme ça, ils seront ingénieurs plus tard, ou maîtres d'école, ou professeurs dans les écoles coraniques.
Mmh. Les enfants de Nourzima, qui ont 7, 8 et 10 ans, vont à l'école, avec leurs souvenirs de leur fuite en pleine nuit sous les tirs d'hommes armés du groupe État islamique. Il n'existe aucun soutien psychologique pour ces enfants. Les équipes éducatives pallient comme elles peuvent cette absence, comme l'explique le directeur du lycée Istiklal.
On entend des tirs, on entend les hélicoptères, les explosions. Il y a des enfants qui viennent à l'école, qui ont vécu des choses horribles dans leur village. La violence, elle est partout, tout autour. Est-ce qu'on en parle ici dans l'école? Est-ce que les enfants, ils en parlent entre eux? Comment on fait quand on enseigne ici pour faire en sorte que la violence, elle reste à la porte de l'école?
Ça demande un travail très régulier et très intense. On a réussi à changer un peu l'ambiance ici déjà. On a formé des professeurs, on a fait des formations dans les classes, mais ça prend énormément de temps pour changer la vie de quelqu'un et pour supprimer les traumatismes des enfants. Ils ont vécu des choses très difficiles. Et pour leur faire oublier tout ça, eh bien, cela prend beaucoup de temps. Ils sont très tristes, ou ils n'arrivent pas à se concentrer ni à mémoriser les cours. On voit très bien la différence entre les élèves qui ont vécu des traumatismes et ceux qui n'ont pas été confrontés à ce genre de situation très difficile.
Sur 1000 demandes d'inscription, le directeur reconnaît n'en accepter que
10%.
Tous les élèves ont le droit de s'inscrire ici, mais nous n'avons pas de place et pas assez de professeurs.
Des écoles asphyxiées, faute de moyens, c'est ce que dénoncent les enseignants. Au regard de la loi appliquée dans la province de Nangarhar pour permettre aux enfants de réfugiés et de déplacés de pouvoir être scolarisés, les établissements scolaires sont censés accepter tous les élèves, sans exception. Mais c'est loin d'être le cas, car dans les faits, les écoles étouffent. Des classes ont lieu dans la cour, sans tableau, les élèves sont assis à même le sol, leurs livres sur les genoux. La scolarisation des enfants de déplacés et de réfugiés est un enjeu majeur pour le pays. Un envoyé spécial de l'ONU a évoqué il y a encore quelques semaines toute une génération perdue, faute de scolarisation.
Oui, je suis d'accord avec cette expression. Les flux de déplacés et de réfugiés ont un impact important sur l'avenir de l'Afghanistan. Mais pas seulement, car cela concerne en vérité le monde entier.
L'éducation est un moyen de contrer la radicalisation dans un pays où les forces gouvernementales luttent contre les talibans, mais aussi depuis 2 ans, contre l'organisation État islamique, apparue dans l'est du pays, ici, dans la région de Jalalabad. Enfants de déplacés, une génération perdue, un grand reportage de Sonia Ghezali, réalisation Ludivine Amadou.